RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h07 et l'intégral tour c'est jusqu'à 21h. Je vous rappelle les principaux titres de l'actu sport du jour. Richard Gasquet, premier français qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon. Il s'est facilement débarrassé de Grigor Dimitrov en 3 petits sets. 6-3, 6-4, 6-4. Dimitrov demi-finaliste l'an dernier quand même. En huitième, Richard Gasquet sera opposé à l'Australien Nick Kyrgios, vainqueur de Milos Raonic. Kristina Mladenovic a été éliminée par Victoria Azarenka, 6-4, 6-4. Radamel Falcao va jouer à Chelsea la saison prochaine. L'attaquant jouait à Manchester United cette année, il n'a pas réussi à s'imposer. Il appartient toujours à Monaco, qui le prête donc aux Blues de José Mourinho. Et puis Nico Rosberg, le plus rapide aux essais libres de Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne. Le pilote Mercedes a devancé les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Bah allez, c'est notre premier rendez-vous du Tour de France 2015 avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie.
Salut Virginie.
Alors ça y est, on est prêts. Bah oui, ça y est, ça veut dire que c'est le départ. Hein. On est tous en place. Vous êtes là, vous aussi au 32-16, sur Twitter également avec le hashtag RMC Live. Bon alors Lucho, ça se passe comment à Utrecht? Vous êtes bien là au pays du vélo?
Ouais.
Le Tour de France, c'est en France. Quoi.
Non, c'est vrai que Utrecht, c'est une très très belle petite ville. On dirait un petit peu, c'est un petit Venise. C'est magnifique. Le centre-ville, la vieille ville, c'est très beau. Il y a plein de petits magasins sympas. On est juste à côté en plus de l'hôtel, donc on a l'occasion de pouvoir aller se balader de temps en temps. Non, c'est une vraie
ferveur.
Ah ben il y a une grosse ferveur, oui. C'est quand on regarde, ce qui est impressionnant, c'est les parkings à vélo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a d'ailleurs il y a un monsieur là qui fait partie de l'organisation du départ du Tour de France en Hollande, qui fait partie de la mairie de Trek. Il parlait de 18-20 000 vélos sur les parcs. C'est énorme.
Effectivement, et en plus, il y a la ferveur aussi parce que ce Tour de France 2015 est particulièrement excitant. Il y a une vraie excitation chez les fans de cyclisme cette année parce que ce Tour de France promet. Tous les favoris sont en forme. Hein, on peut vraiment assister à un très beau tour. Alors, on parle des quatre fantastiques. Quel est le vrai favori, hein? Froome, Quintana, Contador, qui est le favori?
C'est bien parce qu'avec Thierry, on a un avis différent. Donc Thierry, tu vas commencer.
Je vais commencer. Pour moi, c'est Contador parce que sur ce tour, il a montré qu'il était en grande forme sur le Giro et puis toute la saison. Forcément, il y en a qui disent que le Giro, entre le Giro et le Tour, 30 jours ne suffisent pas. Je suis persuadé que si pour lui, on va voir. Et puis Contador. Ne manque pas de panache, il prend beaucoup de risques et cette année il faudra pour gagner prendre des risques.
Et donc Lucho n'est pas d'accord?
Non, pas forcément, parce que quand on regarde un petit peu, c'est vrai que Alberto a gagné le Tour d'Italie, la Route du Sud, il a quand même fait deux gros résultats juste avant le Tour, ça veut dire que sa préparation, il est vraiment à 100% de ses possibilités juste avant le départ du Tour de France. Il y a 3 semaines à tenir et on sait qu'on connaît les capacités d'Alberto, hein, bien sûr qu'il est très très fort en montagne, même dans les contre-la-montre, mais il a toujours un petit peu de mal à passer la 3e semaine, et quand on regarde un petit peu des hommes qui, l'homme favori pour moi c'est Quintana, qui ne s'est pas découvert depuis le début de saison, qui s'est entraîné en Colombie à des altitudes quand même assez importantes, 2500 mètres, 3000 mètres, qui est arrivé, qui est revenu en France pour la Route du Sud et qui a fait une très belle performance à la Route du Sud. Ça veut dire qu'il commence à arriver petit à petit. La première semaine, il va un petit peu prendre ses marques et puis petit à petit, on va trouver le Quintana bien fringant dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et voilà, donc c'est vrai que
ça sera
difficile pour Contador.
Au pied des Pyrénées.
Mais bien sûr qu'il va y arriver. Mais
alors justement, messieurs, Cassine nous appelle au 32-16. Bonsoir Cassine.
Bonsoir à tous.
Et justement pour parler de Quintana, hein, je crois. Salut.
Pour parler de Quintana, j'étais pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec Thierry qui dit que Contador est en forme, il sort d'une victoire sur le Giro. Moi personnellement, j'ai regardé le Giro et j'ai pas vu un Contador. Tranchant, hein. Je l'ai vu en difficulté une équipe assez faible, dans les derniers 5 kilomètres de chaque montée. Il a été en difficulté face au jeune italien dont j'ai perdu le nom, je sais plus trop comment il s'appelle, un jeune espoir.
Arou.
Il est en difficulté face à ce jeune-là. Moi, je suis inquiet face à des gars, justement, qui sont entraînés pour le Tour de France.
Oui, mais
Quintana,
tu vois plus Quintana, justement?
Je le vois Quintana, je vois, pour moi, c'est Froome et Contador vont se marquer. Et Quintana, je pense qu'en plus, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contre-la-montre, enfin, qu'il n'y ait même pas de contre-la-montre, à part demain, je pense que c'est ce qui va pouvoir faire que, justement, Quintana remporte le Tour. Parce que pour moi, Froome, j'ai pas trop suivi son actualité, je sais pas ce qu'il a fait. Contador, j'ai suivi, comme je vous ai dit, je l'ai pas trouvé énorme sur le Tour. Bon, sur le Tour d'Italie, effectivement, il gagne, mais je l'ai trouvé en difficulté.
Ouais,
et Quintana, à voir, quoi. C'est un mec qui s'est préparé, on sait pas ce qu'il va donner sur le Tour.
On ne sait pas, et tu l'as dit, on ne sait rien sur Quintana, en fait. On ne le voit pas depuis 2 mois.
C'est ça qui est excitant.
Et c'est quoi? C'est une stratégie de la part de Quintana d'entretenir le mystère avant le début du Tour de France?
Il l'a fait, il y a 2 ans, déjà comme ça. Il repart dans son pays natal. C'est sûr que pour une préparation, c'est super parce qu'il est en altitude tout le temps et qu'il fait des globules rouges. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur un grand tour. On a vu il y a 2 ans qu'il était performant.
On sait ce qu'il vaut sur un grand tour.
Non, mais Lucho, on sait que c'est un des meilleurs grimpeurs, sinon le meilleur. Après, on va voir sur le comportement de la première semaine.
Oui, Cassine.
Oui. Il a fait du pavé cette année, si je me trompe pas.
Il était
aux autres, il était faire du pavé. Thierry, il a pris un peu plus d'expérience que les autres sur les pavés.
Ça peut faire la différence dans la première semaine, justement, où on passe sur les pavés.
Valverde, il a l'expérience aussi.
Il a du potentiel, il a Valverde à ses côtés qui va le conseiller aussi sur les pavés, et puis sur les pavés sans les avoir connus.
En tout cas, on a parlé de tout le monde dans les quatre fantastiques, mais personne n'a évoqué Nibali. J'imagine que c'est pas un hasard.
Mais Nibali, il va avoir une grosse équipe autour de lui. Alors après, est-ce que lui, il va avoir les capacités à rééditer ce qu'il a fait l'année dernière? Je sais pas. Mais pour moi, l'équipe Astana, c'est en termes de capacité à gérer le Grand Tour, je pense que c'est ceux qui sont les mieux armés, pour moi.
Merci beaucoup, Cassine, d'avoir appelé le 32-16. Donc, on a bien compris, Quintana serait favori pour Cassine. C'est un parcours aussi qui est intéressant à ce Tour de France, parce qu'on va avoir du suspense jusqu'au bout, là.
Dans les Pyrénées... Froome a reconnu l'arrivée dans les Pyrénées à la Pierre Saint-Martin et il a dû changer son braquet. Donc franchement, là-bas, il va falloir avoir les jambes et ne pas avoir un jour sans, parce que on peut perdre beaucoup beaucoup de minutes.
Alors, on peut perdre le Tour dans les Pyrénées, mais on peut pas le gagner parce qu'il y a les Alpes derrière. Donc tout va jouer dans les Alpes.
Si, on peut le gagner dès les Pyrénées.
On peut le gagner dès les Pyrénées.
Oui. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est on perd souvent le Tour dans la première semaine et on ne le gagne pas forcément. Mais il faut éviter tous les pièges, les chutes, les pièges avec les pavés, avec l'arrivée au mur du Huy, avec l'arrivée de Zélande qui sera franchement très vanté. Et là, il va falloir, c'est le placement, et là, on aura besoin, du moins les leaders auront besoin d'une grosse équipe autour d'eux.
Alors, vous continuez à nous appeler au 32-16 pour parler de ce Tour de France 2015 qui commence demain. Dominique nous appelle de Haute-Savoie. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Alors, Dominique, t'as une peur, c'est que ça se soit un peu verrouillé à la fin.
Écoutez, c'est un tour qui est quand même atypique dans son traçage. Et moi, j'ai peur que les 3 derniers jours qui précèdent l'arrivée sur les champs ne soit attendu comme un juge de paix finalement par l'ensemble des équipes. Et bon, l'avenir nous le dira, mais on a déjà connu ce genre de choses avec un tour relativement verrouillé sur une grande partie, et les équipes qui se sclérosent attendant justement, se contentant de victoires d'étape et jouant finalement la gagne dans les 3 ou 4 derniers jours. Et pour moi, ça serait catastrophique si c'était ça, parce que ça voudrait dire un tour carrément casse-pied à suivre. Donc ça me fait peur. Ça m'enchantait quand ils l'ont présenté, et plus j'avance, plus j'approche de l'événement, plus je me dis j'ai peur de voir presque 2 semaines et demie carrément chiantes, et puis 3 derniers jours où on verra peut-être les choses se dérouler.
Ah bah, faut pas partir comme ça à la veille du Tour de France.
Je suis profondément triste. C'est la canicule qui a fait effet.
Oui, mais je pense pas, parce qu'il y a quand même il y a les quatre, mais il y a quand même des outsiders derrière qui peuvent faire la course, et ça peut aussi débrider la course, hein. Et à un moment donné, les favoris vont bien être obligés de prendre des risques, hein. Et puis quand vous regardez un petit peu les premières étapes après-demain Hollande là, avec le vent, les bordures et tout, ça risque peut-être de créer des surprises. Donc
semaine, en fait, il peut se passer des choses quand même vu le parcours. Beaucoup, là,
sûr,
justement.
Bien sûr.
Contre Contrairement à ce que Dominique dit, ils n'attendront pas les 3 dernières étapes, puisque dans les Pyrénées, il y a 3 arrivées au sommet, dont la Pierre Saint-Martin, le plateau de Baye, Cotteret.
C'est pas facile non plus.
C'est loin d'être facile. Donc il y a vraiment de quoi se faire la guerre avant les Alpes. Et après les Alpes, c'est pour finir la chose.
Vous êtes d'accord avec moi, on a déjà vu par le passé des Tours de France se dérouler de la manière suivante, c'est-à-dire un bon grimpeur d'une équipe de seconde zone qui va aller gagner une étape ou qui va faire la montée, mais derrière ça se dispute pas parce que ça attend, il n'y a pas suffisamment d'écart entre les quatre fantastiques comme vous les appelez, et les gars ne veulent pas se dévoiler. Et c'est ça qui me fait peur. Moi j'ai peur que s'il n'y ait pas assez d'écart à la sortie des Pyrénées, ou plutôt avant les Pyrénées, juste avant les Pyrénées, j'ai peur qu'on s'ennuie.
Dominique, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir prendre des risques pour gagner ce tour. Les quatre, ils sont très proches, plus les outsiders qui sont juste derrière. C'est vraiment le tour vraiment indécis. Donc il va falloir qu'ils se dévoient, qu'ils se découvrent et qu'ils prennent beaucoup de risques. Et c'est pour ça que je dis que ton scénario, je l'espère, ne se passera pas.
Si jamais il se passe, vous me rappelez ?
Oui,
il y a 32-16, Dominique. Il y a 32-16, donc tu nous appelles, toi. Je pense que ce sera beaucoup plus simple.
Allez, je vous laisse.
Merci beaucoup, Dominique, d'avoir appelé le 32-16. Vous continuez, bien sûr, à nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de ce Tour de France, pour nous parler des Français, pourquoi pas, parce qu'il faut quand même qu'on en parle aussi. Lucho, Bourgui, ils ont une chance, les Français, notamment Thibaut Pinot. On parle beaucoup de lui, mais on est obligé de parler de lui. Est-ce que le fait qu'il n'y ait qu'un seul contre la montre, qui est une spécialité qui n'est pas la sienne, ça peut lui permettre de jouer un vrai rôle dans ce Tour de France 2015.
Le tour.
Vas-y Thierry.
Non,
tu veux que j'y aille ou tu
vas? Oui, vas-y.
Au niveau des Français, il faut être clair. À la pédale, on n'est pas capable de pouvoir gagner le tour. Donc la seule solution pour les Français, c'est tactiquement de regarder un petit peu ce qui se passe dans le peloton avec les favoris et de trouver le bon moment pour essayer de les surprendre et prendre un peu de temps. Tu sais, Virginie, quand tu regardes le départ du tour, tu as le chrono de demain déjà de 13 km 800. Mmh. Donc c'est un débours en général de 1 minute tous les 10 km. J'espère que Pinot, Bardet et Barguil ne vont pas prendre plus d'une minute demain dans le premier contre-la-montre.
Un peu moins, après, on va dire.
Oui, mais bon, tu sais Thierry, après quand tu es...
On ne perd pas un Tour de France sur un contre-la-montre dès le premier jour.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un Froome qui est quand même très très bon dans un contre-la-montre, il peut très bien mettre 1 minute sur les 13 km 800 à Bardet, à Pinot, voire peut-être voir Warren Barguil, mais qui est quand même plus costaud que Pinot et Bardet dans ce genre d'exercice. Donc ça fait quand même 1 minute. Après, tu as le contre-la-montre de 28 km par équipe. Les équipes françaises sont quand même un petit peu en dessous des équipes de Contador, de Quintana, de Froome, et tout ça, c'est surtout là où les 28 km, ça risque d'être quand même assez sérieux pour les coureurs français. Donc, allez, on va dire 2 minutes au minimum déjà de débours avant les premières étapes pyrénéennes. Donc c'est quand même, ça va être quand même short.
Ça peut être important.
Ça va être short.
Damien au 32-16 nous appelle pour parler de ces Français. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Bonsoir
Damien.
Damien, t'es peut-être un peu plus optimiste, toi.
Ben, c'est-à-dire que, bon, moi, je pense qu'on a quand même une belle équipe entre Bardet et Perrault. Au niveau de la montagne, il y en a un qui peut tirer l'autre. Ils sont quand même, on a vu l'année dernière que Perrault arrivait à tenir un petit peu Nibali au niveau de la montée. Après, on n'a pas vu ce qu'il valait contre Froome mais contre Contador.
Mais attention, il y a une année qui s'est écoulée. Donc, Bardet a pris de l'assurance. Perrault, il est beaucoup moins bien en ce début de saison.
On ne sait pas trop où il en est. Hein. Il a très peu de repères, hein, quand même.
Je parlais d'un équipier de luxe au niveau pour Bardet.
Il faut qu'il puisse assurer, parce que au Dauphiné, il n'était absolument pas capable de le suivre et de l'aider.
Donc, mais d'après ce que j'ai vu au niveau du Dauphiné, non, c'était le Paris-Nice. Froome a gagné vraiment limite à la dernière étape. Hein.
Paris-Nice, c'était au mois de mars.
Paris-Nice, c'est un chrono, c'est au mois de mars.
Non, mais c'est le Dauphiné. Alors, il a gagné limite à la dernière étape.
Ah oui, oui. Ouais. Là aussi, il a gagné sur la dernière étape. C'est vrai.
On ne connaît pas exactement leur niveau. Contador, il a fait la route du Sud il y a une semaine ou 15 jours à peu près. Donc, ils n'ont jamais encore attaqué. On a quand même 10 jours de plaine au niveau de la première. On a pratiquement la moitié de plaine et moitié de montagne, à quelque chose de près. Parce que la seule étape de plaine qu'ils vont prendre, c'est pour passer des Pyrénées aux Cévennes.
Et c'est pas
plat. Au Massif Central.
Et c'est pas plat, parce que le Massif Central, les Cévennes, c'est plat, voilà. Comme on dit jargon.
Bon, en tout cas, on a hâte que ça commence. Hein, ça y est, c'est demain sur RMC. Merci beaucoup, Damien, d'avoir appelé le 32-16. Vous suivez ce Tour de France sur RMC. Hein, c'est en intégralité tous les jours. Ça commence demain. Ça commence à 14h. Hein, rendez-vous est pris. Et ce sera tous les jours jusqu'au 26 juillet. C'est bien le 26 juillet, l'arrivée sur les Champs-Élysées, oui, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à tous les deux, Lucho et Bourgui, pour ce bonne premier soirée. Rendez-vous. Hein, dès demain, à chaque fois, à 20h, on parle. On parlera comme ça avec les auditeurs pendant une petite demi-heure et on parlera également de l'étape du lendemain, de celle qui vient de se passer. Et donc je vous dis à demain, messieurs. Merci beaucoup.
À demain, Virginie.
Merci, Virginie. Virginie ?
Oui.
Oui, simplement faire passer un message quand même, parce que je pense que le sport en des sports en a besoin. Un briviste donc de chez moi, de ma petite ville de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, Mathieu Bosredon. A été champion de France en ligne handisport et médaille d'argent contre la montre. C'est un mec formidable, je tenais à lui tirer mon coup de chapeau, qui sera sélectionné en équipe de France pour les Jeux Olympiques et qui risque d'être l'un des grands favoris pour les Jeux Olympiques prochains pour avoir la médaille d'or. Voilà, Mathieu Bosredon.
Et félicitations à lui.
On n'en parle pas assez du monde handisport, voilà, c'est pour ça que je tenais à le souligner, Virginie.
Et ben c'est très bien. On le fait sur RMC. Merci beaucoup, Lucho. Et on vous dit à demain, messieurs. On va parler foot dans un instant, mais pour l'instant, on joue.
Rejoignez la tribune des supporters avec Société Générale et RMC.
À l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de rugby, vous jouez à notre grand jeu RMC Société Générale. Le principe est très simple, vous laissez vos messages au 32-16, touche 9 toute la semaine pour encourager le 15 de France. Et on sélectionne les messages les plus originaux, les plus sympas. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Jean. Bonsoir Pierre-Jean.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, le bonjour de Gaillac.
Et on va écouter le message qui vous a permis de gagner.
Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jour, la France est debout. Notre passion, être derrière PSA et tous les garçons pour gagner comme les rugby.
Voilà, bravo Pierre-Jean. Et vous remportez donc deux places pour la Coupe du Monde de rugby assister au match du 15 de France, France-Canada. Ce sera le 1er octobre.
Je peux passer une dédicace, s'il vous plaît?
Très rapidement, allez.
Je veux passer une dédicace à ma belle famille, à ma famille, à mon père, à mes amis, avec Perrault, Thomas, Ruiz, et à tout le peuple gaillacois, et à l'équipe senior de Gaillac. Merci à tous, merci beaucoup, merci.
Merci et félicitations à vous Pierre-Jean, si vous aussi vous voulez gagner vos places pour la Coupe du Monde de rugby, eh bien c'est le 32-16, la touche 9, et vous laissez votre message d'encouragement. Avant de parler de foot, on va faire un petit détour par Wimbledon, Eric Salio. Serena Williams est sur le court.
Ah, Serena Williams et Heather Watson livrent un match absolument extraordinaire. Serena Williams vient de gâcher, enfin c'est pas le terme, de ne pas concrétiser une balle de match. Il y a 6-5 au troisième set pour Serena. Et deuxième balle de match à venir pour l'américaine qui était tout près de, du désastre, de la catastrophe, puisqu'elle a été menée 3 jeux à 0 dans cette troisième manche. Avec une balle de 4 jeux à 0 a effacé. Le vent a un petit peu tourné, mais Heather Watson se bat vraiment admirablement. On va suivre cette balle de match, Virginie, c'est la numéro 2.
Suivons cette balle de match.
Attention, ça va falloir que l'anglaise soit très solide. J'espère qu'elle ne va pas craquer parce qu'elle ne mériterait pas de finir sur une double faute. Non, ce ne sera pas une double. Retour filé. Deuxième balle de match sauvée par Heather Watson.
On va suivre ça donc toute la soirée avec toi, Eric Salio, en direct de Wimbledon. Mais dans un instant, on est avec Claudio Beauvu, le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Et à la fin, c'est Serena Williams qui gagne. Eric Salio, toujours à Wimbledon. Ouais. Elle a eu très très chaud, ouais, l'américaine, mais ben, est plus forte.
Ouais, c'est une championne et ça ressemble un peu à son parcours de Roland-Garros. Elle a eu beaucoup de matchs très durs en 3-7, mais là, elle est vraiment passée tout près de l'élimination. Je rappelle qu'Heather Watson a mené 3-0, balle de 4-0 dans le troisième set. Mais Serena donc s'en sort, 6-2. 4-6, 7-5. Heather Watson qui a même été à 2 points de la victoire puisqu'elle a servi pour le match. Il y a eu 40 et Serena, eh bien, dans ces cas-là, elle appuie encore plus fort. Et l'anglaise n'a pas pu supporter la cadence, mais elle a quitté évidemment, vous en doutez, le central sous une immense ovation. Serena en vie. Et devinez contre qui elle va jouer, Virginie.
Ah, j'ai pas regardé le tableau contre qui elle va jouer.
Je crois qu'elle la connaît un petit peu.
Oh, sa sœur ?
Ben oui.
Non.
Et oui.
Bon ben voilà.
Elles se sont pas jouées en Grand Chelem depuis 2009.
Ah, ça va être un beau moment à vivre.
Ouais.
Et on suivra ça bien sûr sur RMC avec toi, Eric Salio. À très vite, Eric, dès demain pour la suite de ce Wimbledon 2015. Pour l'instant, il est 20h33 et c'est l'heure de parler de foot avec Mohamed Bouassi qui est avec moi en studio. Claudio Beauvu, nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, notre invité. Bonsoir, Claudio.
Bonsoir
Claudio.
Alors vous avez participé à votre premier entraînement avec l'Olympique Lyonnais ce matin, comment ça s'est passé?
Nickel, je vais dire que voilà, ce sont une première prise de contact avec mes nouveaux coéquipiers et puis avec tout le staff technique, voilà, c'était vraiment un bon moment ce matin, voilà, d'émotion et puis maintenant c'est passé, place au boulot.
Moi, je me demande toujours quand un joueur comme ça signe dans un nouveau club, ça fait un peu rentrer des classes. Vous étiez un peu stressé, vous étiez un peu excité. Racontez-nous là, comme si on était à l'intérieur.
Ah, c'est vrai que j'étais excité un peu de remettre les crampons et puis voilà, de trottiner, de m'entraîner tout simplement après ce transfert et puis voilà, tout s'est bien passé et maintenant on va dire que je vais rentrer petit à petit et m'intégrer dans le groupe de l'Olympique Lyonnais.
Vous avez fait un discours ?
Non, du tout. Ça, c'est... Après, il y aura la petite chanson, comme d'habitude. Mais le discours, je n'ai pas encore fait.
Et la chanson, c'est déjà une idée ou pas ?
Non, je verrai au moment voulu. Voilà, j'adore chanter, donc on verra au moment voulu.
D'accord, ça va être un vrai spectacle.
Claudio, qu'est-ce qui vous a convaincu de signer à l'Olympique Lyonnais par rapport à d'autres clubs qui étaient intéressés ? On a beaucoup parlé du Qatar et de ses offres financières, mais aussi, surtout, de l'Olympique de Marseille.
C'est le projet sportif. C'est le projet sportif, voilà, et la stabilité aussi du club. Et voilà, c'est quand même l'Olympique Lyonnais, c'est quand même le vice-champion de France, même si Paris a été au-dessus, mais c'est quand même le vice-champion de France. Et puis, il y a la perspective du nouveau stade, il y a la Ligue des Champions, et puis cette année encore, il y aura pas mal de compétitions à réaliser de la part du club. Donc voilà, le choix était vraiment sportif, et c'est une grande satisfaction pour moi et mes parents.
La Ligue des Champions, notamment, vous parlez des compétitions que Lyon va disputer cette année, j'imagine que ça pèse aussi, ça, quand on doit choisir son nouveau club.
Bien sûr, sachant que moi l'année dernière j'ai pu réaliser avec Guingamp un beau parcours en Europa League. On a vraiment découvert cette compétition et tous les joueurs guingampais ainsi que moi-même étaient vraiment heureux de jouer cette compétition européenne. Donc j'imagine que la Ligue des Champions c'est vraiment autre chose. Et quand j'étais gamin, que je regardais ça de ma télé en Guadeloupe,
voilà, aujourd'hui, pouvoir être justement sur le terrain, c'est une grande satisfaction.
La présence d'Alexandre Lacazette aussi, qui est votre ami, Claudio, ça a joué aussi?
Oui, bien sûr, c'est toujours important d'avoir avoir quelqu'un dans un club à qui on peut discuter et demander comment ça se passe à l'intérieur du club.
Je crois que vous l'avez vu justement, Alexandre Lacazette, en Guadeloupe cet été. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment il vous a vendu Lyon, entre guillemets?
C'est son club formateur, donc il m'a vendu, entre guillemets, très bien. Et puis il m'a dit que du bien du club, du staff, des joueurs, et puis de tout ce qui entoure l'OL. Le public, tous les installations, les infrastructures. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, que l'OL, tout simplement, est un grand club de France, à l'image de Paris, Marseille et Lyon, justement. Voilà, c'est tout simplement avec ces mots-là qu'il a pu me guider.
Claudio, on a vu dans votre transfert qu'il y a eu quand même quelques quiproquos. Il y a eu un communiqué de Guingamp pour dire qu'il n'y avait aucun accord avec Marseille. Ensuite, il y a Marseille qui a un petit peu communiqué. Est-ce que vous avez discuté clairement avec des gens de l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous avez eu le président Vincent Labrune ou encore des proches de Marcelo Bielsa ou pas du tout?
J'ai envie de vous dire que je reviendrai pas sur cet épisode, que c'est du passé. Et puis voilà, ce qui était sûr, c'est que voilà, l'Olympique de Marseille voulait que je vienne les rejoindre. Mais voilà, comme vous le savez, j'ai signé à l'Olympique Lyonnais et puis voilà, c'est tout à fait vrai.
Vous comprenez alors l'agacement des supporters marseillais depuis quelques heures alors?
Je ne sais pas c'est quoi leur agacement.
Ils auraient voulu, pour certains, vous voir jouer à l'Olympique de Marseille. Ils sont un petit peu déçus, faut les comprendre aussi.
Oui, bien sûr, j'imagine. Et moi aussi, j'aurais peut-être aimé rejoindre l'Olympique de Marseille dans d'autres conditions. Mais voilà, il s'avère que le choix de Lyon a été pour moi une évidence.
Alors sur le Twitter hashtag RMC Live, nos tweetos vous posent des questions aussi. Farouk se demande si vous vous attendez à avoir une place de titulaire avec Lyon. En tout cas, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec l'entraîneur notamment?
On a discuté du sportif, c'est vrai. Après, voilà, on a l'Olympique Lyonnais, il y a de la concurrence. Il y a de très bons jeunes. Et puis moi, j'arrive pour jouer, mais aussi pour m'adapter au système de jeu du coach. Donc après, voilà, c'est le terrain qui décidera, tout simplement.
Alors, il y a vous, il y a Alexandre Lacazette, il y a Nabil Fekir, ça fait une petite ligne d'attaque sympathique. Vous, c'est 27 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière, 32 pour Alexandre Lacazette. Ça, j'imagine que ça doit aussi vous amuser de vous dire, je sais pas, de vous tirer la bourre, peut-être, et de devenir peut-être meilleure attaque de France, non? Je sais pas, ça fait partie des buts.
Ouais, peut-être, après on verra. Je vais d'abord m'intégrer sur le terrain avec eux justement et avec Alex, et puis après on verra ce qui arrivera, mais l'important de toute façon ce sera le collectif et que les objectifs du club soient atteints en fin de saison.
Vous êtes très amis, vous avez passé les vacances ensemble avec Alexandre Lacazette. La saison prochaine, l'attaque de l'OL, ça sera bien Claudio Beauvu et Alexandre Lacazette, pas Claudio Beauvu avec un autre joueur?
Ça, je ne sais pas, il faudra poser la question à Alex, parce que bon, il est très demandé logiquement, mais normalement je pense qu'il sera bien.
Il vous aurait peut-être pas dit de venir comme ça si c'est pour s'en aller juste après quand même.
Demandez-lui. Après, vous savez, chacun gère sa carrière, donc voilà. Je peux pas répondre à sa place.
Est-ce que derrière ce choix de Lyon, donc de disputer la Ligue des Champions, de jouer les premiers rôles en championnat, il n'y a pas aussi dans votre tête l'idée de disputer éventuellement l'Euro l'an prochain avec les Bleus, qui est en France?
Ah là là, doucement là, je viens d'arriver à l'Olympique Lyonnais, on va d'abord passer étape par étape. D'abord je m'intègre à mon nouveau groupe, ma nouvelle équipe, et puis après les performances feront les choses tout simplement. Mais je ne prends pas la tête avec ça.
Donc là pour l'instant on cherche plutôt un appart ou une maison,
des trucs comme ça. Voilà, tout à fait, voilà. D'abord chaque chose dans l'ordre.
Merci beaucoup Claudio Beauvu d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC.
Merci.
Alors Mohamed, ça fait deux arrivées donc à Lyon, Claudio Beauvue qui était avec nous il y a un instant, et puis Jérémy Morel. Le mercato lyonnais, il est terminé ?
Non, il n'est pas encore terminé, puisque du côté de Lyon, on cherche un défenseur central expérimenté. C'est la volonté du président Jean-Michel Aulas. Et on cherche aussi peut-être quelques opportunités au milieu de terrain. Il y a eu le départ de Johan Gourcuff. En tout cas, sur le plan offensif, c'est fini. Il n'y aura pas d'autres arrivées avec Claudio Beauvue, Alexandre Lacazette, Fekir. Il est comblé, l'entraîneur de Lyon, Hubert Fournier. Après, les dossiers très très importants à Lyon actuellement, c'est les prolongations de contrat, puisque la prolongation de contrat la plus chaude, on va dire, c'est celle d'Alexandre Lacazette. Le dossier est en stand-by. Le président Aulas a fait une offre à Alexandre Lacazette. Le joueur la juge insatisfaisante pour l'instant. C'est le dossier le plus important pour tous les dirigeants lyonnais et pour les supporters, puisqu'on est inquiet pour Alexandre Lacazette. Nabil Fekir, lui, devrait prolonger dans les prochains jours avec une très belle revalorisation jusqu'en 2020. Et il y a un autre dossier. Eh bien, il s'agit du gardien de but Anthony Lopez. Il est actuellement en négociation pour prolonger aussi. Sauf que pour lui, c'est complètement bloqué pour l'instant. Il ne veut pas prolonger à la hauteur des montants donnés par le président Aulas. Et c'est pour ça que Jean-Michel Aulas avait évoqué il y a quelques jours dans Louis Attaque l'intérêt pour un gardien marseillais, je crois, Steve Mandanda.
Ah, tiens, j'ai son marché en fait, Jean-Michel à Marseille. Merci Mohamed Bafsi, tu restes avec moi en studio parce que dans un instant, ça va chauffer entre le Stade Malherbe de Caen et l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelaine, le directeur général de Caen, sera en direct avec nous. La proposition de l'OM pour N'Golo Kanté ne lui fait pas vraiment plaisir. A tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h47 sur RMC, on continue à parler foot jusqu'à 21h et même largement au-delà, puisque Florent Gautreau sera là pour l'after jusqu'à 23h. Mohamed Bouafsi est toujours à mes côtés. Mohamed, on va parler des choses qui fâchent, hein, c'est comme ça, ça nous arrive. N'Golo Kanté, le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, est un homme très courtisé. L'Olympique de Marseille voulait le recruter, le club anglais de Leicester aussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux clubs ne proposent pas la même chose à Caen. L'OM, c'est 5 millions d'euros, Leicester 9 millions. Et la proposition d'OM a eu le don d'énerver notre invité. Bonsoir, Xavier Gravelaine.
Bonsoir à
tous. Bonsoir, Xavier.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le directeur général de Caen. Pour vous, cette proposition de l'OM est inacceptable?
Oui, enfin, N'Golo le sait depuis une semaine. Mais tout d'abord, c'est au-delà de ça, c'est le principe et la façon dont c'est amené. Vous savez, on a l'habitude, il s'est passé beaucoup d'événements, et au Stade Malherbe, on parle pas beaucoup, on parle de temps en temps. Et sous la voix et sous le fait que mon président, on est tombé d'accord sur le principe, puisque j'ai re-rencontré N'Golo Kanté. Alors, on va remettre les choses en place. Effectivement, N'Golo Kanté a un bon de sortie. Il avait re-signé. On est en parfaite osmose avec N'Golo Kanté, Jean-François Fortin et nous-mêmes et le club. Ça se passe très très bien. C'est un garçon charmant. D'ailleurs, il sort de mon bureau il y a une heure et demie après son entraînement, puisqu'on a rediscuté des choses qui se sont passées aujourd'hui. Le principe d'N'Golo Kanté, il a re-signé et c'était le seul qui avait un bon de sortie officiel. Et dans ce bon de sortie, donc on voit depuis 15 jours que tout le monde l'envoie à l'Olympique de Marseille. Je crois que l'Olympique de Marseille, et Dieu sait qu'on n'est pas contre l'Olympique de Marseille, on sait les relations entre le président Labrune et mon président. Et Dieu sait moi aussi que j'aime l'Olympique de Marseille. Mais il y a des choses qu'on peut pas... Voilà, il est temps d'arrêter un petit peu le feuilleton, puisque effectivement...
C'est le montant que l'Olympique de Marseille propose, c'est-à-dire 5
oui,
millions
oui,
qui vous
voilà.
Choque.
Non, c'est pas... Oui, effectivement, après, c'est à la limite, c'est pas entre les deux clubs. C'est quand N'Golo Kanté vient de changer d'agent il y a quelques semaines. À partir de ce moment-là, après c'est un travail privé, c'est son problème. Mais N'Golo a été supervisé par une quinzaine de clubs cette année. Et les deux offres, enfin l'offre officielle qu'on a en mail et comment dire sur notre bureau, c'est celle de Leicester qui est là depuis à peu près 3 semaines officiellement. Et puis celle bien sûr de l'Olympique de Marseille, mais là c'est plus à des discussions avec notre président, puisqu'il y a des très bonnes relations. Et N'Golo Kanté, dans le deal que nous avions, c'était s'il y a plusieurs clubs, et ça c'est la bonté du président, à un certain niveau, il était prêt à ne pas faire grimper, et le choix était des clubs, s'il y avait plusieurs propositions, était le choix de... On aurait accepté le choix d'N'Golo Kanté, parce que c'est d'abord c'est un respect, par rapport à lui, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à notre club, on fonctionne toujours, le président comme ça. On était prêt à dire, bon bah écoute, il faut perdre un peu d'argent à une certaine base qu'on a accepté, parce qu'un accord c'est le joueur, les deux clubs et le joueur. Donc et là il y a deux propositions. Alors qu'après effectivement cette proposition d'Angleterre est là. Lui, il a choisi d'aller. Enfin, il a choisi. Il est pour l'instant à l'Olympique. Il préfère aller à l'Olympique de Marseille. Le seul problème, c'est que entre la réalité et les choses, N'Golo, dont je viens de parler pendant une heure et demie, est tout à fait conscient des choses et qu'il y a trop d'écart entre la proposition anglaise et celle de Marseille. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a habilement bien orchestré au niveau média, on envoie N'Golo Kanté à Marseille depuis voilà, ce qui était le cas de Claudio Beauvu hein, avec Guingamp.
Ça ne s'était pas fait puisqu'il est à Lyon.
Xavier.
Donc, mais le principe il est très clair. On n'a rien contre les clubs, c'est une très bonne relation. Après que des personnes influencent N'Golo et N'Golo est en parfaite osmose avec nous. Donc là, il a eu le refus déjà en début de semaine, puisqu'il a croisé mon président et moi-même, on a déjà eu un entretien à la reprise, et il savait très bien la discussion. Donc à partir de ce moment-là, c'est un manque, je veux dire, après c'est pas eux qui fixent les prix, je crois que si N'Golo Kanté est à 5 millions d'euros, nous on l'a pas fixé à 5 millions d'euros, on n'est pas gourmand, mais à un moment donné on peut pas imposer les choses et je pense pas que ce soit automatiquement ça vient de Marseille.
Juste, vous avez évoqué ce matin, vous avez eu des mots très très forts en conférence de presse, vous avez évoqué un manque de respect de l'Olympique de Marseille. C'est un dossier difficile, vous avez parlé d'informations d'ordre privé, ce changement d'agent, on va pas l'évoquer, mais ce manque de respect, c'est l'entourage d'N'Golo Kanté ou c'est plutôt dirigé vers l'Olympique de Marseille quand on sait les bonnes relations entre le président Fortin et l'Olympique de Marseille?
Oui, non, c'est pour ça que je précise. Alors, vous voulez pas les agents. C'est à un moment donné, c'est pas les agents qui. Et puis, en tout cas, ce sera toujours comme ça. Dorénavant, au Stade Malherbe, mais c'est pas comme ça dans tous les clubs. Enfin, chacun gère le club. Moi, on m'a mandaté avec le président pour le club. Mais je crois qu'à un moment donné, il est très clair. Si N'Golo Kanté vaut 5 millions d'euros, ou alors je connais plus rien du foot, mais on ne nous imposera jamais. Et c'est pas un problème que de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est les agents qui, bon, après que N'Golo ait fait un choix qu'il préfère peut-être pour l'instant à Marseille et de pas répondre favorablement à l'Angleterre, c'est un choix, on respecte. Maintenant, il n'y a pas qu'N'Golo Kanté qui décide. Et surtout pas les agents. Donc c'est pas terriblement, après que Marseille n'ait pas les moyens de mettre autre chose, ça c'est un autre problème. Mais si l'offre anglaise n'est pas accepté, et c'est tout à fait normal parce que si nous je fais un transfert, on n'envoie pas les joueurs n'importe où.
Juste en un mot, Xavier Gravelaine, les négociations avec l'OM sont rompues aujourd'hui?
Non, parce que les relations sont très bonnes. On dit simplement qu'à partir d'un certain chiffre, il ne faut pas croire qu'il ira. Donc il le sait, il est tout à fait conscient, et il y a trop d'écart. Donc à partir de ce moment-là, mais le mercato vient de commencer. Ces agents qui sont là, après qui sont peut-être respectables, pour l'instant il y a que deux offres, et voilà. Donc ce qui est clair, c'est que moi j'ai les ordres, et les ordres sont qu'à ce tarif-là, N'Golo Kanté reste au Stade Malherbe de Caen, s'il n'accepte pas dans l'Angleterre, et c'est son choix, voilà.
Merci beaucoup Xavier Gravelaine d'avoir répondu à nos questions sur RMC.
Merci à vous, merci, bonne soirée.
Bonne soirée. Mohamed Bouafsi, juste un mot de Radamel Falcao qui va jouer donc à Chelsea.
Oui, il est prêté à Chelsea pour une saison. Après une saison, la saison dernière à Manchester United, il revient en Angleterre, il sera prêté à Chelsea. Et le chemin inverse d'un autre joueur de Chelsea qui va rejoindre Monaco, c'est le petit jeune Mario Pasalic qui est prêté à l'AS Monaco en prêt sans option d'achat.
Et juste en un mot, le Nasser El Khelaifi, le président du PSG, s'est félicité, bien sûr, tout à l'heure, du fait que le fair play financier soit assoupli et qu'il n'y ait pas que les sanctions soient levées pour le PSG. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent acheter n'importe qui, n'importe comment, quoi. Je veux dire, Cristiano Ronaldo arrive pas demain.
Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens, cette levée des sanctions du fair play financier. Une décision constructive et juste. Cette décision permettra au club de reprendre son développement. Voici les mots du président Nasser El Khelaifi après après cette décision de l'UEFA, le Paris Saint-Germain va revenir avec de grandes ambitions sur le mercato, a-t-il déclaré le président du PSG. Alors on va rassurer les supporters, le PSG s'est mis sur plusieurs dossiers depuis quelques heures, notamment on l'a dit hier avec Kevin Trapp, le gardien allemand, Kevin Trapp qui a donné son accord pour rejoindre le PSG, et sur le dossier d'Angel Di Maria, le milieu offensif gauche du Paris Saint-Germain, c'est la priorité des priorités. Mais il n'y aura pas de Messi, il n'y aura pas de Neymar, il ne devrait pas y avoir de Cristiano Ronaldo aussi. Pourquoi ? Parce que des transferts à plus de 100 millions d'euros, ce n'est pas encore possible pour le PSG, qui doit justifier à la fin de la saison des revenus en hausse et surtout des comptes équilibrés.
Merci beaucoup Mohamed Bouafsi, tu vas rester là avec Florent Gautreau qui nous a rejoint en studio pour l'after.
Salut Virginie, salut à tous, c'est l'horaire de l'été, 21h-23h pour l'after tous les soirs. Maintenant vous avez le rendez-vous en tête, 21h-23h. Au programme ce soir, le dossier Pogba, quelle serait la meilleure destination pour le français ? Le Barça, le PSG ou bien rester à la Juve ? On va tout vous expliquer, on vous attend aussi au 32-16. Plus le Mercato Show avec Mohamed Bouafsi, Lyon et le dossier Nkoulou, Gravelaine qui s'en prend à l'OM et la finale de la Copa América Chili-Argentine. Toutes les infos transfert du jour également. L'after arrive dans quelques instants.